Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. La semaine prochaine s'ouvre une nouvelle édition du Salon de l'agriculture. Comme vous le savez, une belle histoire d'amour entre les Français et ce salon. En général, près de 600-630 000 visiteurs chaque année. Donc je vous propose un avant-goût de ce salon avec deux grands défenseurs du monde agricole. Alors tout à l'heure, vous découvrirez Mimosa, le premier site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. Contrairement aux idées reçues, je le dis tout de suite, on ne cesse de le rappeler chaque année au moment du Salon de l'agriculture, les agriculteurs font partie des catégories socio-professionnelles les plus connectées, les plus consommatrices de nouvelles technologies, des innovations qui sont là pour inventer l'agriculture de demain au service des agriculteurs. On en parle tout à l'heure avec le fondateur de Mimosa et cofondateur de la Ferme Digitale. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron ?
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Bonjour Nicolas Chabanne.
Bonjour.
Bon, on le rappelle tout de suite, la France, première puissance agricole européenne, cinquième à l'échelle du monde. À quel point le monde agricole est important en France ? Vous, vous êtes à la tête de C'est qui le patron ? Alors moi, je vais vous dire, C'est qui le patron ? Je l'ai découvert, sûrement comme beaucoup de Français, en grande surface. Je suis tombée sur une brique de lait bleue avec écrit « C'est qui le patron ?» qui m'a interpellée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi « C'est qui le patron ?» Comment vous êtes organisé ?
Alors, C'est qui le patron ? C'est la première marque créée par des consommateurs. C'est une coopérative qui porte l'initiative. Et le principe, c'est de créer des produits nous-mêmes en votant sur Internet à partir de questionnaires très simples où on décide de la rémunération des producteurs, chose très importante, de l'impact environnemental du produit. Ça prend quelques minutes et ça permet de faire naître des produits plus équitables déjà, plus durables, parce qu'on voit que notre bon sens collectif généralement écrit plutôt des histoires positives au niveau des produits. Et c'est devenu un succès fou parce que tout le monde a pris sa part. Voilà, c'est une grande famille de colibris pour faire une petite référence à Pierre Rabhi qui s'est dit « Ok, on en a marre de pas savoir où va notre argent, comment il est utilisé, alors on va créer nos propres produits, comme ça on aura la destination jusqu'au producteur final. »
C'est une marque que vous avez créée, donc vous le rappelez, c'est une coopérative, ce n'est pas une association, et c'est une marque. C'est-à-dire que vraiment, ouais, vous avez réussi à vous creuser comme ça, un sillon au milieu de toutes ces grandes marques de la grande distribution ou ces marques fortes d'entreprises, vous avez réussi à vous installer là.
Oui, alors je vais même vous donner un chiffre. Alors, on le donne comme point de repère, hein,
ouais,
parce que c'est pas très important les chiffres, c'est les valeurs qui sont derrière les chiffres. Mais cette petite marque, donc qui n'a jamais fait de publicité à la télévision ou sur les antennes radio, même si je n'aurais pas dire ça ici, mais qui n'a pas de commerciaux.
Disons que vous n'avez pas de budget communication, c'est les autres, ouais, qui parlent pour vous, en fait.
On n'avait rien. Au début, on était deux, puis il n'y avait même pas de bureau. Il y a quelque chose de très spontané qui est né. Ouais. Mais comme il n'y avait pas de point d'appui, tout le monde s'est dit, il faut qu'on aide cette initiative. Voilà, j'imagine ce qui s'est passé, parce que comme on n'a rien organisé, on peut juste vous faire témoignage du fait que 3 ans après, cette initiative née spontanément, de façon très, très naturelle, bah, c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue de l'histoire de l'agroalimentaire. C'est dingue, la brique de lait, c'est 150 millions de litres de lait, on rêvait d'en vendre 5 millions au début, depuis 2 ans la marque en France qui progresse le plus devant toutes les autres marques. Alors au-delà des chiffres, encore une fois, ça veut dire que quand on s'y met tous, et quand les choses sont transparentes et claires, et qu'il y a de la valeur dans les produits, eh bien il n'y a pas que la pub et le premier prix qui peut faire vendre des produits. Redonner le sourire à des producteurs, c'est aussi un argument fort pour tout le monde.
On a évoqué la brique de lait. Aujourd'hui, combien de produits sont vendus sous la marque C'est qui le patron ?
Alors il y a 21 familles. Même peut-être, on était un peu trop vite parce que...
Parce qu'elle est née en 2016, hein, c'est ça ?
Oui, en 2016, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, même si tous ont un sens. Les producteurs nous ont appelés après la brique de lait en disant « Mais nous, on fait des pommes. Vous savez, on arrache nos pommiers dans la région de l'Est parce qu'il manque 9 centimes par litre.
Ouais. »
Alors, parce qu'on n'a pas rappelé que toute l'histoire est née de la découverte par nous, consommateurs, du fait qu'il manquait... par rapport à nos achats annuels, par exemple sur le lait, 4 euros de plus par an. Il manque 8 centimes par litre, on boit 50 litres. Si on rajoute 4 euros par an sur nos achats de lait, on transforme un argent qui nous associe bien involontairement à un système où à l'autre bout, il y a un producteur qui ne vit pas, à une protection du producteur. Sur la farine, c'est 70 centimes, 3,30 euros sur les œufs, et voilà, et le jus de pomme, je crois que c'est 3,60 euros. Voilà, on ne nous l'avait pas dit, ce que coûte réellement un soutien à notre niveau. Et c'est pas à sens unique, je tiens à le dire, parce que quand on rajoute des centimes sur le lait, le jus de pomme, le beurre, eh bien, le producteur qui vit enfin et qui est enfin heureux et qui vit de son métier, il est capable de faire de la qualité en échange. Alors, on enlève les OGM, il fait du fourrage locaux, il met les vaches au pâturage plus longtemps. Voilà. Donc, il y a vraiment une dimension gagnant-gagnant.
Oui, et puis vous le disiez à l'instant, c'est une question de bon sens. Alors, je vais peut-être vous paraître naïve, mais quand on voit justement ces petites marges qui pourraient se réajuster pour permettre à un agriculteur de vivre de son travail, que fait la grande distribution ?
Alors, au-delà de la grande distribution, parce que c'est qui le patron a sauvé des familles, il y a plus de 3000 familles aujourd'hui soutenues par la démarche, aussi parce que la grande distribution a fait une place en rayon, hein, elle est capable de vendre des millions de produits. Au-delà d'elle, même si elle a sa part de responsabilité aussi, il y a un système dingue qui s'est uniquement occupé de la notion du premier prix. Tout le monde s'est dit, il faut qu'on ait le produit le moins cher pour qu'il se vende en rayon. Mais personne n'a regardé un mètre à côté. Il faut souvent se décaler un tout petit peu pour voir différemment les choses. Le bio a montré que quand il y a de la valeur, quand à un moment donné, un produit est entouré de valeur, il a aussi une capacité à attirer une famille de gens qui peuvent rajouter ces centimes pour aider les producteurs.
Mais c'est surtout que c'était un système attenable sur le long terme.
Ouais, ça a tué tout le monde. Vous avez raison. Le premier prix, au début, vous savez, c'est simple. La course au premier prix, au nom des consommateurs, alors qu'on ne nous l'avait finalement jamais vraiment demandé. Il faut des premiers prix parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à un euro près à vivre en France. Ça, on le rappellera tous et il faut le rappeler. Mais il y a une famille de gens qui peuvent aussi rajouter 4 euros par an sur un achat comme, encore une fois, le lait ou d'autres produits. Et c'était intenable parce qu'au bout d'un moment, vous appuyez sur quelle partie, quand vous devez maintenir votre marge de distributeur, votre marge de fabricant. Le pauvre qui, finalement, est la partie molle de l'histoire, c'est le producteur. Et à la fin, on appuyait sans arrêt sur celui qui se défendait le moins.
Alors que ça part de lui, alors que le produit part de lui. Sans lui, il n'y a pas de produit.
Vous avez raison. Et pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes, on se fiche totalement, nous, des intermédiaires. On veut savoir qui fait notre produit, qui est le producteur à l'autre bout, est-ce qu'il est heureux et comment il travaille. Voilà, donc, c'est ce nouveau rendez-vous, grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, entre des consommateurs et des producteurs. Et finalement, les acteurs intermédiaires regardent ce nouveau rendez-vous, le respectent et les choses changent.
Peut-être parce que justement, effectivement, on est au bon moment avec les Français qui réclament de plus en plus de transparence, de traçabilité de leurs produits. Peut-être acheter un produit qui a du sens.
Ouais, on a toujours eu ce bon sens et cette bienveillance, hein, mais on n'avait pas le moyen de nous rendre compte du fait qu'on était des milliers à être comme ça, un autre chiffre incroyable qui donne de l'espoir à toutes les petites start-up. 3 ans après, c'est qui le patron ? Sans pub, sans commerciaux, c'est 14 millions d'acheteurs. 1 Français sur 5. Donc, cette famille-là, comme la nôtre, la génération d'avant ou celle d'après, on a toujours du bon sens. Mais en fait, on s'est rendu compte, en se parlant par les réseaux sociaux, que le voisin d'à côté, il pensait comme nous. Et puis celui d'à côté également. Donc, il n'y avait plus une famille d'experts qui décidait pour tout le monde en disant, écoutez, on vous fait un produit, puis vous allez l'acheter parce qu'on va vous faire un peu de pub dessus. On s'est posé des questions pour finalement nous dire où va notre argent. Cet argent difficile à gagner, vous en faites quoi quand je l'amène vers votre produit ? Et comme on n'avait pas toutes les réponses, on a décidé de faire nos produits.
Tout le monde peut y participer ? Les auditeurs du Sud Radio qui nous écoutent peuvent participer à C'est qui le patron ? Comment ça se passe ?
Oui, vous avez raison. Alors à la fois dans la coopérative, il y a des sociétaires, bientôt 10 000 sociétaires qui sont des ambassadeurs. On donne 1 euro et puis on se rassemble et puis on vit la vie de la coopérative tous ensemble avec des décisions de la coopérative, mais les 14 millions d'acheteurs ne sont pas tous sociétaires. Et bien, chacun peut, déjà en allant voter pour les produits, en partageant des infos sur la naissance des produits. Récemment, là, hier, on a mis une vidéo en ligne, alors on fait tout un peu avec les moyens du bord, mais c'est la première boulangerie qui a fait des baguettes de pain avec de la farine équitable, qui soutient des producteurs en France, et les producteurs de blé français ont besoin de soutien. Eh bien, c'est incroyable de voir à quelle vitesse ça se propage sur Internet et ça nous permet d'aller 10 fois plus vite que peut-être avec des grands plans de communication. Ça, on le doit à tous ceux qui donnent un petit coup de main et qui participent de cette façon-là, comme en créant les produits, comme en allant en magasin. Je vous donnais une anecdote folle. On s'est demandé comment on arrivait à ces résultats-là. Eh bien, une dame nous a dit, vous savez, moi j'étais cliente depuis 30 ans de mon magasin. J'ai juste dit au directeur, Vous me reconnaissez, je viens toutes les semaines chez vous. La brique de lait que j'ai créée, mettez-la plus bas. Elle est trop dans le rayon, mettez-la plus bas. Aucun commercial en France n'aurait pu obtenir ça. Donc c'est une part qu'on prend tous à une aventure à notre dimension. C'est pas une marque des consommateurs faite par des gens à distance d'eux. Nous, on est au milieu des consos, on est tous des consos, et on change les choses tous ensemble.
Ouais. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, c'est qu'il patron est une marque engagée dans convaincre les agriculteurs. J'imagine que ça n'a pas été difficile. Maintenant, aujourd'hui, il faut peut-être même gérer une trop grande affluence de producteurs qui viennent vous voir pour rejoindre le mouvement C'est qui le patron ?
Ouais, il faut dire vraiment, évidemment, on aimerait aider tellement plus de producteurs encore, mais notre deuxième invité en parlera encore mieux que moi. Il y a une demande folle côté producteurs de soutien. C'est dramatique. Je veux vous dire que même avec cette belle histoire et ce soutien, vous n'imaginez pas ce que peuvent être, je veux en faire le témoignage, on le vit depuis 3 ans, la vie de producteur qui travaille 7 jours sur 7. À Noël, quand on est producteur de lait, on se lève à 5h du matin, comme tous les jours de l'année. Quand vous savez qu'un tiers des producteurs gagnent 350 euros, c'est pas possible, nous, consommateurs, d'être rendus complices involontairement d'un système comme celui-là. Donc il faut que ça change. Ce sont des gens qui ne parlent pas, parce que quand c'est la 4e génération que vous êtes le fils du petit-fils du producteur de lait, vous n'avez pas envie de casser cette chaîne et toutes ses valeurs. Donc vous avez tendance à ne rien dire, à beaucoup souffrir, et vous arrivez à ce drame de 1 suicide en France par jour côté producteur. Voilà, ça résonne trop négativement.
Mais c'est important de le rappeler.
Voilà pourquoi
parce que
on a fait tout ça. Nous.
Voilà pourquoi vous avez fait tout ça, et voilà pourquoi qu'on a acheté justement des produits C'est qui le patron, et qu'on sait que derrière, il y a une rémunération correcte, c'est-à-dire que l'agriculteur ou le producteur s'y retrouve. Bien voilà, ça paraît, comme vous le disiez, quoi, ça n'est qu'une question de bon sens. Alors, on continue cette discussion avec nos entrepreneurs engagés, déterminés à apporter des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des agriculteurs. Tout de suite avec notre deuxième invité, dans quelques minutes, à tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, 12h30, Nathalie Schrengirma.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission consacrée au savoir-faire français. Alors nous sommes proches du Salon de l'Agriculture. Dans une semaine, s'ouvrira la nouvelle édition du Salon de l'Agriculture. Et donc nous sommes fiers de recevoir ce matin deux personnalités engagées dans le monde agricole. Nicolas Chaban de C'est qui le patron et Florian Breton de la start-up Mimosa et cofondateur de cette ferme digitale qui est, c'est vraiment devenu le stand central du Salon de l'Agriculture. On ne peut pas louper la ferme digitale. Bonjour Florian Breton.
Bonjour.
Vous faites partie de ces jeunes entrepreneurs engagés, cette nouvelle génération qui est remplie d'énergie, qui souhaite améliorer le quotidien des agriculteurs. Et donc vous avez lancé la plateforme Mimosa. Expliquez-nous ce qu'est Mimosa.
Alors Mimosa est une plateforme de financement participatif qui est exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. C'est une plateforme que j'ai fondée il y a tout juste 5 ans. À l'initiative finalement de cette histoire, il y avait un désir déjà un petit peu irrationnel et personnel de m'engager dans le secteur agricole en étant moi-même issu d'une famille de viticulteurs dans le sud de la France. Et puis je constatais malheureusement aussi une certaine forme de difficultés des agriculteurs, des producteurs à se financer, en tout cas dans une période en plus où l'agriculture est en pleine transition, en plein changement de modèle. Et donc de l'autre côté, on a des consommateurs, comme le rappelait aussi Nicolas, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent soutenir ce monde agricole, parce que conscient qu'aujourd'hui il n'y aura pas de pays sans agriculteurs et qu'il est nécessaire aujourd'hui de vraiment s'engager de manière presque militante et plus radicale dans le financement, dans l'accompagnement, dans la juste rémunération des producteurs. Il en va aussi de l'avenir de notre nation et de toute sa gastronomie et toute sa belle identité.
D'ailleurs, parmi les membres de la ferme digitale, vous êtes beaucoup d'enfants ou de petits-enfants d'agriculteurs.
Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on se rappelle à chaque fois. Donc des agriculteurs, des fils ou filles d'agriculteurs ou d'agricultrices et des petits-fils. Donc c'est vrai qu'on a un lien soit complètement direct, soit indirect, mais en tout cas quelque chose en nous qui aussi nous porte et qui nous donne envie de vraiment nous engager tous les jours pour un monde plus vertueux au service aussi des producteurs qui, avec lesquels, on ne le rappelle jamais assez, on a rendez-vous 3 fois par jour. Donc voilà, et donc Mimosa, après 5 ans d'activité, là aussi c'est toujours important comme point de repère de partager des chiffres, mais on a accompagné plus de 2500 projets en France, et chaque mois, depuis 6 mois, c'est entre 80 et 120 producteurs que nous accompagnons.
Je vais donner quelques exemples de projets, justement. Je suis sur votre site, Florian, tout en vous parlant. Je vois qu'il y a un atelier à la ferme pour nos porcs noirs gascons. On a un entrepreneur qui souhaite soutenir la production locale de légumes bio en Côte d'Or, une épicerie vrac et bio dans le Sud. Donc vraiment, il y a Là, on est vraiment plus sur la gastronomie, mais aider un colibri à sillonner la Bretagne pour faire connaître les produits bretons. Donc, on a un petit peu de tout, hein, tous ces entrepreneurs.
On a exactement, on a de tout, une très très grande diversité représentatrice finalement de la richesse de nos territoires et de nos terroirs, mais en même temps de la créativité, de l'innovation, de la capacité à innover et à se projeter des producteurs français. Et pour les citoyens, ce qui est extraordinaire, c'est que on a des produits financiers, puisque la finalité reste de financer ces producteurs, on a des produits financiers qui peuvent répondre à des envies un petit peu différenciées quoi, ou des citoyens. Premièrement, on a ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature, une certaine forme de philanthropie et de générosité nationale en finançant par le don des producteurs et en bénéficiant de contrepartie en nature comme des produits, des séjours à la ferme, des expériences, ce qui est extraordinaire puisque cela crée, au-delà de belles énergies, un vrai lien social entre des producteurs, des agriculteurs et les consommateurs. Et deuxièmement, on a un deuxième produit qui s'appelle le prêt, où là, directement, les consommateurs sont invités, les citoyens, à placer leur épargne directement en prêtant aux agriculteurs, moyennant finalement des intérêts sur leur placement. Donc ce produit d'épargne qui est révolutionnaire, puisqu'aujourd'hui,
je rappelle, il
n'y a pas un produit d'épargne sur le marché en France et même à l'échelle mondiale qui finance l'agriculture et l'alimentation. Donc d'une certaine manière, chaque projet de manière isolée, est un produit d'épargne, avec son propre risque et donc son propre intérêt. Et donc, les citoyens sont invités à donner du sens à leur argent, certaines formes de transparence, puisqu'on sait quoi on finance et qui on finance. Et puis, troisièmement, aussi des intérêts qui sont en moyenne aux alentours des 3,5%, 3,7%. Donc, beaucoup mieux que l'épargne dite réglementée.
C'est vrai. C'est bien de le rappeler, effectivement. Nicolas Chaban, de C'est qui le patron ? Vous êtes sur la plateforme Mimosa ?
Oui, je... J'avais très envie de dire aussi que récemment, il y a un acte 2 à C'est qui le patron, c'est-à-dire que les consommateurs vont aller maintenant voir ce qui se passe chez les fabricants des produits plus traditionnels. Et donc, il y a eu un appel pour financer cette structure qui s'appelle l'Atelier consommateur et citoyen. On avait mis en place sur Mimosa, donc c'est pour vous dire que ça marche, une collecte pendant 2 mois. Pour 300 000 euros, ce qui était une somme importante, eh bien, en 17 jours, il y a eu plus de 600 000 euros.
Vous avez doublé.
Et on a dû même arrêter, alors, parce que, voilà, donc c'est un hommage au fait que, oui, là, bah, c'est une épargne qui a du sens, on sait à quoi cela va servir, et Mimosa, ça marche. Voilà, ça aide beaucoup de producteurs, et ça aide des projets aussi plus importants, qui ont un effet de levier sur peut-être plus de producteurs derrière des marques plus traditionnelles qu'on connaît tous.
Selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 30 ans, la population mondiale a augmenté de plus de 2 milliards d'individus. D'ici à 2050, chaque jour, ce sont plus de 250 000 personnes de plus que notre planète devra nourrir. L'agriculture devra produire 50% de plus de nourriture alors que l'extension des surfaces agricoles diminue. Comme peau de chagrin. Et comment faire alors pour produire plus, avec moins de surface, mais produire mieux, tout en prenant soin de notre planète? Alors c'est justement grâce à des initiatives comme tous ces entrepreneurs qui sont sur les plateformes Mimosa, qui essayent de trouver des solutions, notamment de circuits courts ou d'idées ingénieuses.
Exactement, c'est vrai que ce défi, quand on se le rappelle, fait peur.
Ah, ça fait très peur, oui.
Parce que devant nous, c'est à peine 30 ans. Et augmenter de 50% notre production quand dans le même temps les surfaces agricoles ne vont pas augmenter, c'est un défi vertigineux. Les agriculteurs seront les héros de ce siècle-là parce qu'ils sont finalement, ils portent en eux ce défi-là et le métier change et ils portent en eux aussi toutes des externalités positives, on va dire, pour la planète, tant d'un point de vue alimentaire, bien évidemment, que climat et que environnement. Les startups, bien évidemment, ont un rôle à jouer majeur pour accompagner justement cette agriculture et la faire passer d'une agriculture dite intensive en produits phytosanitaires issus de la révolution verte à une agriculture plutôt intensive en utilisation des données pour permettre aux agriculteurs justement de prendre des meilleures décisions, de réduire un petit peu le stress hydrique des exploitations, de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, de cartographier finalement leurs parcelles pour apporter de l'intelligence au cœur des exploitations et accompagner ce grand défi de la transition agricole. Et c'est vrai que c'était un constat qui était le nôtre avant de cofonder la ferme digitale, c'était que aujourd'hui, quand on se projette un petit peu à l'échelle mondiale, les défis sont énormes, comme on l'a rappelé sur l'agriculture. Et paradoxalement, les investissements sont en très forte croissance dans ce qu'on appelle les ag-tech, puisque c'était l'année dernière, de manière clôturée en 5-6 ans, avec une forte accélération, plus de 15 milliards d'euros qui ont été investis dans les startups dites de l'ag-tech. Et pour autant, 45% de ces investissements sont réalisés aux États-Unis, 45% sont réalisés à peu près dans le bloc asiatique avec l'Inde, et à peine 10% en Europe et 2% en France. Je pense qu'aujourd'hui, la France, en tant que première puissance agricole européenne, et l'Europe, en tant que première puissance agricole mondiale, a une autre voie, beaucoup plus ambitieuse, à porter pour accompagner cette transition environnementale et agroécologique de l'agriculture.
Être moins frileuse, notamment les banques, qui peuvent
soutenir
un peu ces entrepreneurs.
De souveraineté alimentaire, si on n'est pas capable de se projeter aussi sur la souveraineté de l'utilisation des data. Aujourd'hui, on condamne nos agriculteurs, finalement, à utiliser des solutions qui délocalisent et qui exportent à l'international, entre les mains d'acteurs qu'on ne maîtrise pas forcément, toutes les datas de l'agriculture française et européenne. Frilosité des banques, oui et non, mais en tout cas, une méconnaissance profonde, en tout cas, si on se projette vraiment, de la plupart des investisseurs. Et c'est vrai que ce qui est présent à l'esprit des consommateurs, c'est-à-dire quand on pense agriculture, on pense forcément à des signaux un petit peu négatifs, que je ne vais pas rappeler, il y a aussi une certaine forme de projection inconsciente sur la fragilité d'un modèle, une population vieillissante, est-ce qu'on a un avenir, etc. Au contraire, c'est un métier qui mute, qui aujourd'hui, au-delà de l'alimentation, produit des énergies renouvelables, qui produit de la biodiversité, qui stocke du carbone, qui se diversifie dans son modèle économique, l'agriculteur. Et donc, il est nécessaire, indispensable aujourd'hui d'investir l'agriculture française, européenne et ses start-up pour se projeter sur ces défis climatiques et environnementaux.
Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Florian Merci. Breton. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mimosa et cofondateur de la Ferme Digitale. Merci Nicolas Chabanne de C'est qui le patron ? Merci beaucoup à tous les deux.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et oui, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter, qui nous propose chaque semaine un talent français. Et je crois que là, vous avez été inspiré par la Saint-Valentin, Thibaut. Vous êtes parti à la rencontre d'un fleuriste.
Qui est aussi un mof.
Ah, meilleur ouvrier de France.
Oui, il s'appelle Julien, et plus qu'un fleuriste, c'est un vrai maître en art floral. Il est également décorateur. D'ailleurs, quand je suis allé le voir dans son atelier, juste à côté des Invalides, il était en train de préparer une composition florale pour un shooting photo. Alors on a discuté, et il m'a expliqué ce qui constitue le cœur de son métier.
À mon sens, le propre du métier de fleuriste, c'est déjà de déclencher une émotion pour la personne qui offre les fleurs et qui les achète, et d'essayer au mieux d'interpréter son choix, ses goûts et son souhait.
Alors dites-moi, par exemple, je veux faire un cadeau de Saint-Valentin, je veux offrir un joli bouquet. Quelles questions vous me poseriez pour guider mes choix ?
Alors, c'est un peu facile à Saint-Valentin. On va tout de suite s'orienter sur des roses, qui est le symbole de l'amour. Maintenant, si la personne veut un bouquet composé ou un bouquet différent de la rose rouge, le type de couleur. S'il veut plutôt quelque chose de plutôt printanier, plutôt quelque chose de frais, pas frais en termes de fraîcheur de fleurs, mais frais en termes de couleur, quelque chose de plutôt coloré, un camailleux ou un monochrome. Voilà, ça c'est des questions qu'on va pouvoir poser pour pouvoir élaborer le bouquet qui va lui correspondre le mieux.
Moi je sais que vous êtes meilleur ouvrier de France, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé ce concours. C'est très particulier, je crois qu'il y a une composition à faire, je crois qu'il y a une épreuve particulière.
Alors déjà c'est un concours qui s'étale. À l'époque où moi je l'ai passé avec une phase de qualification et l'année d'après une phase finale. Pour les qualifications, on avait, que je dise pas de bêtises, deux sujets à préparer en amont, avec un temps imparti à fleurir le jour du concours, plus des épreuves imposées et surprises. Et pour la finale, on avait trois sujets de composition libre, mais avec un thème imposé. Voilà, et avec un temps de floraison à faire sur place, plus 4 ou 5 épreuves surprises à réaliser dans un temps imparti.
Il est important de rappeler que vraiment les meilleurs ouvriers de France, c'est plus qu'un titre, c'est plus qu'un diplôme. C'est une exigence de tous les instants.
C'est ça, en fait, Julien m'en a parlé. En effet, le plus dur, c'est pas passer l'examen, mais c'est tout le travail qu'il y a derrière, tous les jours, pour garder le cap et être à la hauteur de ce titre de MOF. Mais j'en reviens au métier de Julien, qui exige de se lever très tôt, écouter.
Alors, pour ma part, je vais chez mes fournisseurs, donc à Rungis, tous les jours. Mmh. En règle générale, le réveil sonne aux alentours des 4h du matin. Ouais. Ensuite, on arrive à la boutique, on met les fleurs à l'eau, on les prépare, on s'occupe de la boutique. Ouais. Pendant qu'une personne, et ça tourne, prépare les commandes. Et puis après, on prépare les commandes, on répond au téléphone, on fait les devis, on se déplace, on va voir les clients. Et la journée se termine à 20h.
Premier auteur, donc c'est des, oui, d'accord, c'est des longues journées, 4h, 20h.
C'est ça, ce sont des longues journées, mais c'est aussi une partie de plaisir.
Là, je vais à l'atelier, donc il y a la partie comptoir, il y a l'arrière-boutique. On peut jeter un coup d'œil ?
Donc voilà, l'atelier où on prépare le plus gros des commandes.
D'accord, on peut le décrire ?
Il y a tout un rack d'étagères où les vases sont présentés pour nous, pour les attraper plus facilement. Et après, trois tables de travail. Où on prépare nos commandes, tel un cuisinier ferait sa cuisine.
Elles sont conservées comment ces fleurs ?
Alors systématiquement en bac avec de l'eau. Il y a un petit apport nutritif pour qu'elles se tiennent au mieux. Et le fait d'aller à Rungis tous les jours, en fait, on a un flux tendu, donc il n'y a pas de stockage.
Et les outils que vous utilisez, c'est quoi ? Donc c'est vos mains, bien sûr, mais c'est le sécateur que je vois ?
Essentiellement le couteau. Ouais. Et après le sécateur coupe tout, mais c'est avant tout le couteau, parce que la fleur a besoin d'être coupée au couteau idéalement.
Merci beaucoup Thibaut de nous avoir fait partager ce moment avec Julien dans son atelier. Vous avez vécu un petit moment privilégié là.
Ah, je sais tout maintenant du métier de fleuriste. Ouais.
Merci beaucoup Thibaut. J'espère que vous serez nombreux à aller au Salon de l'Agriculture la semaine prochaine, soutenir nos agriculteurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et depuis le Salon de l'Agriculture. Bon dimanche à tous.